RFI Actualité, Caroline Paré.
Des sanctions votées à l'unanimité, de nouvelles mesures à l'encontre de la Corée du Nord visaient notamment le textile que Pyongyang exporte et ses importations en pétrole et en gaz un cran de plus. Il s'agit de la 8e série de sanctions présentées par les États-Unis, soutenues par les Chinois et les Russes. Sanctions donc pour essayer de pousser la Corée du Nord à négocier ses programmes d'armement nucléaire et conventionnel, 9 jours après l'essai atomique auquel avait procédé le pays. C'était donc le 3 septembre dernier. En ligne avec nous, Antoine Bondaz, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur à la Fondation pour la Recherche Stratégique. Alors, du côté de certaines des puissances occidentales, on évoque une résolution équilibrée. Résolution, en tout cas, obtenue après de fortes pressions, d'intenses pressions de la part de la Russie et de la Chine.
Effectivement, puisque si les Américains avaient proposé hier un projet de résolution qui incluait un embargo total sur les importations nord-coréennes de pétrole, alors la Chine et la Russie auraient très certainement mis leur veto. Donc la négociation a visé à atténuer considérablement cette question de cette sanction sectorielle sur le pétrole et sont donc limitées uniquement les importations nord-coréennes de produits raffinés et pas de pétrole brut.
Là, pour les sanctions matérielles, il y a également les termes de cette résolution. Ils ont été en quelque sorte édulcorés, adoucis, avec notamment les Russes, les Chinois qui ont poussé les Américains à insister sur une sortie de crise pacifique.
Effectivement, c'est la ligne suivie aujourd'hui par la Chine et la Russie. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les sanctions sont nécessaires vis-à-vis de la Corée du Nord, mais qu'à elles seules, elles sont insuffisantes pour pousser la Corée du Nord à se dénucléariser. Les sanctions font partie de ce qu'on appelle la diplomatie coercitive, mais dans toute diplomatie coercitive, il ne faut pas oublier une dimension fondamentale qui est celle, la dimension diplomatique, tout simplement.
En tout cas, les Américains à l'ONU ont dû reculer, alors que la semaine dernière encore, on entendait du côté notamment de la représentante de Donald Trump au Conseil de sécurité de l'ONU des propos plutôt belliqueux, qualifiant par exemple Pyongyang, disant que Pyongyang ne demandait que ça, sous-entendu la guerre.
Bien sûr, alors l'objectif au cours des négociations était de faire une pression maximale pour la Chine, sur la Chine et sur la Russie afin de limiter, entre guillemets, l'atténuation prévue de ces sanctions. Est-ce qu'aujourd'hui l'option militaire est une option crédible pour les États-Unis ? Non. Le scénario, il faut le rappeler, de frappe préventive sur la Corée du Nord, premièrement ne garantirait en rien de neutraliser les installations nucléaires et balistiques nord-coréennes, et deuxièmement entraînerait très certainement des représailles militaires de la Corée du Nord, notamment sur le voisin sud-coréen, Séoul, 25 millions d'habitants, à quelques dizaines de kilomètres de la frontière, et donc à portée de tir de l'artillerie conventionnelle et chimique de la Corée du Nord. Et notons qu'il y a également plus de 2000 Français qui vivent à Séoul.
Alors, comment se fait-il que finalement les États-Unis réussissent à obtenir un vote de sanctions à l'ONU de la part des Russes quand on parle de la Corée du Nord et en aucun cas lorsque l'on évoque le dossier syrien ?
Alors, sur la question nord-coréenne, il y a la question de la non-prolifération nucléaire et balistique. Sur ce dossier-là, la Chine et la Russie ne peuvent pas, par principe, s'opposer à des sanctions. Alors, l'objectif pour Moscou et Pékin, c'est de voter des sanctions, mais de limiter l'impact potentiel des sanctions. Encore une fois, pour la Chine, l'objectif, il est de sanctionner, mais d'éviter que les sanctions n'entraînent un effondrement économique et, in fine, un effondrement politique du régime nord-coréen.
Alors, comme à chaque fois que ce type de résolution est votée, est adoptée, on se demande comment est-ce qu'on va pouvoir mesurer les effets des sanctions. Et cette fois-ci, est-ce que Pyongyang a moyen de les contourner ?
Alors, il y a toujours un moyen de contourner les sanctions. Et le récent rapport des experts de l'ONU l'a très bien montré, soulignant que le régime nord-coréen excellait au contournement des sanctions. Donc ça, c'est quelque chose qui est toujours possible du côté de la Corée du Nord. Mais ce qu'il est très important de rappeler, c'est qu'une grande partie des sanctions qui ont été votées depuis 2006, vous avez parlé du 8e train de sanctions, ces sanctions-là ne sont pas forcément appliquées strictement, non seulement par les pays européens, mais surtout par certains de nos partenaires en Afrique, au Moyen-Orient ou même en Asie du Sud-Est. Et donc, une des priorités bien que voter de nouvelles sanctions soit important, c'est également d'appliquer de façon stricte les sanctions déjà votées depuis 2006.
Avec des modalités de contrôle ?
Avec, si possible, des modalités de contrôle, mais il est très difficile d'imposer aux pays des modalités de contrôle. Ce qu'il faut, c'est les convaincre de l'importance du respect de ces sanctions internationales, puisque aujourd'hui, personne n'a d'intérêt à ce que la Corée du Nord poursuive le développement de ses armes nucléaires et balistiques. Mais encore une fois, malheureusement, les sanctions seules ne dénucléariseront pas la Corée du Nord.
Est-ce que ces sanctions sont assorties de mesures, justement, de rétorsion pour ceux, justement, qui ne suivraient pas la ligne décidée par le Conseil de sécurité des Nations Unies ?
Alors, il n'y a pas, en théorie, de mesures de rétorsion. Ce qui est possible, bien évidemment, en termes de communication internationale, c'est de faire ce qu'on appelle le naming and shaming, c'est-à-dire montrer du doigt un pays et souligner qu'il ne respecte pas les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Mais encore une fois, il n'existe pas au sein de l'ONU d'un mécanisme de contrôle et de suivi de la mise en œuvre des sanctions.
Alors, le vote d'hier a été suivi, il nous reste une trentaine de secondes, de nouvelles menaces de la part de Pyongyang. À quoi s'attendre maintenant ?
Alors, ce qu'il serait fort possible de la part de Pyongyang, c'est désormais de réaliser un essai balistique intercontinental, non pas avec un tir en cloche, mais avec une portée opérationnelle beaucoup plus importante. Et donc, cela signifierait réaliser un essai de missile balistique intercontinental au-dessus du Japon et s'écrasant à plusieurs milliers de kilomètres dans le Pacifique. C'est aujourd'hui une provocation qui est à craindre du côté de la Corée du Nord.
Merci beaucoup Antoine Bondage. Je rappelle
Merci
que vous êtes chercheur à la Fondation pour la Recherche Stratégique.